Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. À chaque épisode, je recevrai professionnels, jeunes ou parents pour parler d'une thématique sucrée liée à la parentalité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de partager ce plateau avec deux intervenants que vous allez découvrir tout de suite. On commence avec toi, Inès. Comment tu vas?
Ça va très bien et toi, Amélie? Bonjour tout le monde.
Est-ce que tu veux bien te présenter?
Je m'appelle Inès. Je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Get Up, qui a pour objectif de permettre aux jeunes de quartier populaire de prendre leur place dans la société. Et ça passe par trois grands axes. Le premier, c'est de les accompagner, de les aider à déconstruire tout ce qu'ils ont intériorisé, que la société, le regard de la société qui est posé sur eux, les aider à développer des compétences et avoir accès à des opportunités. La deuxième chose, c'est de changer aussi le regard qu'on pose sur les quartiers populaires avec un pôle média. Donc on crée du contenu, on crée des web-séries, on essaye de changer un peu la narration des quartiers populaires et de les faire rentrer dans l'histoire de France. Et le dernier pôle, c'est le pôle plaidoyer. Donc on a une chercheuse qui a rejoint l'équipe en bénévole au début et puis qui a commencé à essayer de créer de la donnée, parce que quand on a voulu essayer d'aller défendre les quartiers populaires auprès des maires, des ministères, etc., on s'est rendu compte que toutes les données qu'on avait, c'était radicalisation, délinquance, décrochage scolaire. Et nous, ce n'est pas ce qu'on voyait autour de nous. Et on avait envie de documenter aussi l'élan qui existe dans nos quartiers, les dynamiques, les énergies qu'on voit chez les jeunes. Et donc là, on a deux rapports qui sortent sur l'engagement des jeunes dans les quartiers populaires qui vont permettre d'apporter des chiffres, justement, pour montrer que nos jeunes se bougent, qu'ils font partie de cette société, qu'ils ont des choses à donner et des places à prendre. Et voilà, un peu comme ça, comme on travaille. On a un lieu aussi à Saint-Denis qui s'appelle le SAS.
Le SAS, exact.
Où on essaye de faire que le maximum de personnes se croisent, travaillent entre elles, créent des synergies communes. Parce que c'est un peu ce qui nous fait défaut aujourd'hui. On a plein de super projets, de super personnes. Mais on a du mal à se mettre ensemble, à dépasser un peu les clivages, les petites incompréhensions, ce genre de choses, et essayer de travailler ensemble pour avoir une force, un impact plus fort tous ensemble. Voilà.
Ben en fait, on va la co-animer, hein, cette émission, puisque c'est une excellente transition. Tu parlais de lieux de rencontres. Fadaman, comment tu vas?
Ça va très bien, merci, et toi?
Ça va. Est-ce que tu veux bien te présenter et du coup nous expliquer un peu ton rôle, ta mission et le lieu que vous avez récemment ouvert à Sainte-Geneviève-des-Bois?
Tout à fait. Donc moi, je suis coordinateur prévention et initiative jeune, donc du coup pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et voilà, moi, mon rôle, ça va être de valoriser la jeunesse à travers des projets avec différents partenaires, notamment vous, Soparks. On a eu l'occasion de travailler ensemble autour de débats qui étaient en fait pour pouvoir amener les jeunes à avoir un esprit critique sur différentes questions et puis à valoriser aussi l'expression orale. L'oralité, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, à travers le débat, à travers l'échange, c'est comment aborder certains sujets qui peuvent prêter à polémique, mais qui peuvent nous amener à avoir différents points de vue et nous aider en fait à pouvoir échanger sur ces thématiques qui peuvent être qui peuvent cristalliser certaines choses, mais qui peuvent nous amener aussi à avoir différents points de vue et ouvrir différents horizons. Donc entre autres, voilà, c'est ça mon travail, mais ça va aussi de pouvoir faire aussi des chantiers solidaires, de faire des formations BAFA quand le besoin se présente. Ça va être de travailler avec le service de prévention de la ville quand le besoin se fait sentir et quand les profils de certains jeunes le demandent. Donc voilà, c'est de mettre de la transversalité dans mes actions parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est pour ça que j'essaye de multiplier les partenaires sur différentes actions et pour que c'est le regard de ces partenaires-là puisse être aussi pertinent, parce que voilà, on peut être amené à travailler sur le terrain avec différentes personnes, mais la pertinence, en fait, l'efficacité, elle va être de pouvoir prendre les bonnes personnes au bon moment.
Mmh, exact.
Donc, voilà, j'essaie de, à ma petite échelle, de faire ça sur le territoire de Sainte-Geneviève. Et pour l'instant, ça commence doucement, mais sûrement. Après,
vous avez ouvert un tiers-lieu.
Exactement. On a ouvert une structure là depuis le mois de septembre, avec effectivement un tiers-lieu jeunesse qui regroupe trois services, MJC, service jeunesse et mission locale. Donc après, le but de cette structure, c'est d'être un carrefour pour les jeunes et de pouvoir justement retrouver des services ou des personnes qui peuvent les aiguiller sur différentes problématiques, différentes thématiques. Et je pense que l'ambition de cette structure, c'est que vraiment tout le monde puisse s'y retrouver, et notamment les jeunes.
Merci pour cette présentation, ça risque d'être mouvementé par ici et les échanges. On vous présente presque plus, mais comme j'aime dire, faites-le quand même, parce qu'il y a toujours de nouveaux auditeurs. Barberiche et Bouba qui sont là aussi pour mettre les pieds dans la tasse, ils aiment la polémique et c'est pour ça qu'on les aime. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Pourquoi tout de suite tu nous présentes comme ça déjà ?
C'est peu... parce que c'est votre rôle.
C'est un peu... Mais déjà, je voudrais savoir, je voudrais demander à nos deux invités, où est-ce que je peux mettre mon bulletin de vote ?
Voilà.
Parce que du coup, j'ai bu leurs paroles. Donc Barberiche, chroniqueur dans cette merveilleuse émission. Quoi de plus ?
Qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Dans la vie, chroniqueur de cette merveilleuse émission, cofondateur de Soparks, l'entité dont parlait Fadamant, et à mes heures perdues, animateur, chroniqueur dans des émissions de radio.
Merci. J'ai oublié de vous poser la question, Fadamant, Inès et Barberiche, avant que Bouba se présente, est-ce que vous êtes parents ?
Non.
Oui.
Pas encore,
oui.
Inès ? Pas encore. Oui, combien d'enfants ? Quel âge ?
3 enfants.
Je croyais que tu allais dire 10.
Comme il a souri.
Doucement. Non, calmez-vous, n'allez pas soulever des interrogations qui n'ont pas lieu d'être. Non, 3 enfants, une fille de 8 ans et des garçons de 7 ans.
Ok, ça marche. Des jumeaux ? Super. Anne ?
3 filles.
3 filles, quel âge elles ont ?
16, 14, 12.
Merci. Bouba, est-ce que tu veux bien te présenter ?
2 filles, 16 ans.
Non, ça, c'est pas ta présentation, Bouba, pardon. Il faut te discipliner un peu. Bouba, qui es-tu ?
Bouba, réfort insertion sur Massy, une ville que Fadamant connaît très bien.
Tout à fait.
J'ai bien aimé ton adage, là. Du coup, ça fait 25 ans que je suis dans le social, entre animation, médiation et insertion sociale, cofondateur du média La Récré, responsable du média Bloc Entre Radio, animateur Disons-nous les choses, et responsable de l'association, enfin de l'entité Transmission 91, spécialisée dans la prévention de la délinquance.
Merci. Maintenant, le CV est long, monsieur le président. Avez-vous des enfants ?
Oui, deux filles, 15 ans et 8 ans.
Merci. Et bien maintenant que les présentations sont faites, je vous présente la thématique du jour, coéducation. Là, parlons un peu de coéducation. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous entendez ce terme ? On dit qu'il faut toujours un village pour éduquer un enfant. Que comprenez-vous de cet adage ? C'est parti.
Alors, pour moi, quand j'entends tes propos, pour le coup, je pense que l'environnement dans lequel évoluent les jeunes et les enfants, il est fait de différents acteurs. Donc, pour le coup, il y a les parents, mais pas que. Notamment aujourd'hui, quand on est dans nos villes, ce qui faisait la différence à l'époque, je ne vais pas faire l'ancien, mais à l'époque, c'était qu'il y avait nos parents, mais il y avait d'autres personnes qui évoluaient autour de nous et qui nous permettaient d'avoir un système de valeurs. Mmh. Donc aujourd'hui, cette coéducation, c'est les parents, oui, mais c'est aussi l'interaction entre différents acteurs ou différents éléments qui vont constituer le parcours de l'enfant ou de l'ado.
D'accord, merci. Fadamant, Inès ?
Moi, je suis entièrement d'accord. L'environnement, c'est extrêmement important dans l'évolution d'un enfant, dans sa construction, dans son accès après à des opportunités, à son compréhension du monde, etc. Il y a les tantes, les voisins, mais il y a aussi les profs, les médecins. Et là, on se rend compte aujourd'hui que plus ça va, plus tout ce tissu social qui existait, qui était déjà précaire à l'époque où moi j'ai grandi, où on a grandi, il est de plus en plus mince. Mmh. Et donc, en fait, on est de plus en plus livrés à nous-mêmes. Et les parents sont obligés de travailler plus. Parfois, il y en a qui ont plusieurs métiers, plusieurs tafs, etc. Et tout ça, ça fait que le jeune, il est souvent livré à lui-même. Et on voit que cette problématique, elle est beaucoup plus... Même si ça change un peu maintenant, mais elle est plus prégnante chez les garçons que chez les filles. Cet environnement-là, il va plus les fragiliser, eux. Mais de plus en plus, on voit que les chiffres se rapprochent et qu'aujourd'hui, même les filles, elles grandissent dans un environnement qui les abîme, qui les détourne de l'école, qui leur font aller vers des raccourcis, des chemins faciles, etc. Et donc cet environnement, malheureusement, il est de plus en plus, plus négatif, quoi. Mmh.
Barberiche, Bouba, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, pour moi, c'est l'éducation à plusieurs. Quand je dis l'éducation à plusieurs, c'est que une éducation globale qui part de la maison et qui s'étend à toutes les personnes ou les entités qui accompagnent ou fréquentent l'enfant, le jeune.
Et les associations aussi, du coup.
Ouais, les associations.
Bouba.
Moi, je crois qu'avant, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait l'éducation collective, tu vois. C'est-à-dire, il y avait des personnes ressources, nos oncles. Moi, je sais que beaucoup d'entre nous, lorsque nos parents avaient du mal à nous communiquer certaines choses, ils laissaient la main à l'oncle. Parce que l'oncle, il paraissait un peu plus cool. Tu vois,
ouais, ouais.
Donc ça passait mieux quand ça passait avec les paroles de l'oncle. Et je pense que concernant cette éducation collective, on parle beaucoup du bug de l'an 2000. Moi, je crois que le bug de l'an 2000, c'est la diminution de l'éducation collective. C'est-à-dire, on est arrivé dans une ère où on s'est fait blaguer par la Coupe du Monde 98, où on a cru que Black Blanc Beur, on était tous frères et sœurs, en tout cas avec d'autres classes sociales. Et finalement, dans les années 2000, avec l'arrivée de l'euro, il y a eu un repli familial, et même des familles qui ne se sont pas vues, des cousins pendant des années. Et tout ça, ça contribue au fait qu'on était tous élevés ensemble, tu vois.
Donc tu penses qu'on peut parler d'isolement un peu
Moi je pense qu'il y a eu de l'isolement.
Dans nos bulles.
Dans nos bulles familiales. Mais avant, c'était beaucoup plus collectif qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, ça reste quand même, parce que nous, on est issus de cultures où tout de même, pour moi, c'est un privilège d'être ce que nous sommes et d'être de nos cultures, parce que, j'allais dire un détail, mais c'est pas un détail, quand tu veux faire garder tes enfants, dans nos cultures à nous, c'est assez rapide.
T'as pas besoin de passer un coup de téléphone.
Ouais, des fois,
tu vas, tu toques.
Ils sont déjà là.
Ah là, je te dépose. Oui, pas de problème. Tu vois, ça va super vite. Tu vois. Donc, c'est un privilège d'être issu de nos cultures.
Est-ce que, j'ai une vraie question, parce que quand on parle de coéducation, est-ce qu'une des problématiques qu'on rencontre, c'est pas aussi lié à l'incompréhension ou la mauvaise interprétation de ce terme ? Je m'explique, la coéducation, à la base, c'est de placer les parents et les citoyens. Donc quand on dit les citoyens, on entend bien les professionnels, les associatifs et tout, à une place égale en tout ce qui va concerner l'éducation, l'évolution de l'enfant, de l'adolescent. La seule chose, c'est que c'est une position égale avec des places différenciées. C'est-à-dire que le parent a sa place, le professionnel a sa place, l'associatif a sa place. Or, souvent les parents, quand ils entendent coéducation, ils se heurtent à « mais en fait c'est mon enfant, c'est moi qui décide ». Et est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation entre le fait d'avoir une éducation avec des postures et une position égale dans l'évolution et le bien-être de l'enfant et à distinguer avec la place différenciée ? C'est-à-dire que tu es le parent, tu restes le parent, le prof reste le parent. Pour autant, quand il s'agit de prendre des décisions d'un point de vue éducatif, en fonction de là où se situe l'enfant, il faut que l'autorité soit déposée avec. Est-ce que vous pensez que ça peut être une des raisons pour lesquelles on a du mal justement à trouver ce consensus et à établir quelque chose qui soit vraiment efficace dans nos actions au quotidien? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas déjà un problème au niveau de la définition? Ah, je vous ai posé une colle là, vous attendiez pas à ça. Hein. Non, mais parce qu'en fait...
Moi déjà, je pense qu'il y a déjà un problème chez les parents déjà. Quand je dis qu'il y a un problème chez les parents, c'est que... Tout dépend, en fait, quand je dis qu'il y a un problème, c'est que tout dépend de la posture des parents. C'est-à-dire que il y a des parents qui vont déléguer, ou en tout cas qui vont tellement lâcher prise, que la coéducation, prends le pas sur l'éducation qu'il y avait à la maison, de fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
De toute façon, on va s'embrouiller nous-mêmes. J'espère qu'à la maison, vous avez des tasses de thé.
C'était très clair.
Au litre.
Moi, j'ai ma tasse de café.
Non, mais c'est une réelle question. Il faut savoir qu'en vrai, les choses... C'est le côté contemporain qui vient bouleverser la donne. C'est-à-dire que depuis les années 70, on inscrit un peu dans les textes de loi, justement, cette notion d'autorité parentale. Ouais. Avant, c'était quelque chose qui se faisait un peu comme ce que Bouba disait, c'était d'où l'adage, hein. Le village, on se concertait, le voisin intervenait, le professeur, etc. Mais depuis les années 70, en fait, depuis qu'il y a la notion d'autorité parentale...
Attends, mais... En fait, on est en train de se rendre compte que mai 68, ça met un gros bordel. En
mais
vrai.
Bien sûr.
Dans
clairement.
Tout.
Oui,
dans
oui.
Tout, en fait.
Mais oui,
clairement. Elle était totale.
Clairement. Et ensuite, après les années 70, donc là où on place l'autorité parentale, où on la reconnaît, il y a aussi tous les textes de loi qui en découlent, notamment celle du 4 mars 2002, où là, c'est inscrit clairement cette notion de co-éducation pour tous les acteurs qui vont travailler avec les enfants. Il y a une obligation maintenant de concertation et d'informer les usagers, les parents, de les mettre dans la boucle. Et en fait, depuis là, bah ça devient un gros bordel parce que c'est inscrit dans la loi. Les professionnels essayent de au maximum d'impliquer les familles, mais tu as la famille qui, au début, va être partie prenante quand ça va dans le sens de ses valeurs, mais au bout d'un moment, qui va se retirer en disant « Non, mais en fait, là, stop. C'est mon enfant. C'est moi qui décide. Stop. Je vous ai écouté, mais là, tu dis n'importe quoi et je reprends mon gamin. »
Mais moi, j'ai une petite question par rapport à ce que tu dis. Est-ce que la place donnée aux tiers, d'accord ? Tout à l'heure, Inès, tu parlais des associatifs, on va dire par exemple des collectivités territoriales et des différentes structures qui sont mises en place et autres, l'éducation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas une place qu'ils n'avaient pas avant, ou en tout cas, ils n'ont pas une mission qui n'était pas la leur avant? Je m'explique. C'est-à-dire qu'une structure de loisirs est là pour occuper l'enfant. Et de base, elle n'est pas là pour éduquer l'enfant. L'école est là pour instruire l'enfant. De base, elle n'est pas là pour éduquer l'enfant. Et ainsi de suite, on peut aller comme ça avec toutes les entités ou personnes qui entourent l'enfant. Est-ce que là, aujourd'hui, on ne parle pas de coéducation parce que les parents ont de plus en plus de mal à tenir leurs enfants et du coup, on est en train d'élargir le prisme?
Moi, je pense que la coéducation, avant, elle était naturelle. C'est-à-dire qu'avant, quand tu... passer le pas de la porte de chez toi, l'adulte, le rapport à l'autorité que tu allais avoir dans l'association culturelle, sportive ou autre, là, cette autorité, elle était naturelle. Parce que tout était bien ordonné. D'accord ? Donc, on était dans le club de foot, on écoutait l'éducateur qu'on avait dans notre catégorie, on allait au théâtre où on allait rencontrer des adultes, on était au fait qu'on devait respecter des règles. On avait des choses qui étaient bien établies, il n'y avait pas un rapport qui était biaisé. Aujourd'hui, l'enfant va sortir de chez lui, il va tout remettre en question parce que ce système de valeurs n'est plus. Donc, vous allez dans les transports, aujourd'hui, les enfants, ils parlent fort, ils sont là, ils insultent, alors qu'auparavant, même chuchoter, tu allais prendre des pincettes parce que tu savais qu'il y avait des adultes et qu'il fallait faire attention à ce que tu pouvais dire. Donc aujourd'hui, vu qu'on n'a plus ce système de valeurs, les ados ou les enfants que l'on va avoir à nos côtés, ben, le fait de les reprendre, ils vont être choqués alors que c'est une chose qui, pour moi en tout cas, était quelque chose de naturel. Donc je pense que cette coéducation, elle était pas... on ne se posait même pas la question d'eux, parce que c'était quelque chose qui coulait de source.
Inès ?
Moi, je trouve que c'est... un sujet quand même très compliqué parce que déjà c'est très flou. Tu vois, moi je vois par exemple dans les classes les plus aisées, on se prépare pendant des mois avant l'arrivée d'un enfant, on lit des livres, on écoute des podcasts, on se prépare au postpartum, ce genre de trucs. Et nous, dans nos cultures, dans nos familles, etc., on n'a pas forcément, en tout cas les générations d'avant, je vois mes cousines, elles commencent à un peu se documenter tout ça.
On attend qu'il
avant,
fasse
top le bébé. Ben, ça arrive, quand il est là, bah, il est là. Quand il est rendu, bah, c'est dur. On n'avait pas, parce qu'on était nombreux, il y avait toujours quelqu'un qui savait mieux. Il y avait la grand-mère, il y avait la tante, il y avait celle qui avait plus d'enfants. Il y avait l'expérience autour de nous. Et comme ça, ça s'effrite. Il faut apprendre maintenant à devenir parent. Moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Donc, force à tous les parents.
Mais Ina, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ah, juste, j'ai une question. Tu dis, dans les classes aisées... Quand ton référentiel, il part du coup de nos origines, je suppose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le taux de mortalité avant la naissance de l'enfant qui conditionne le fait que les gens se préparent moins dans certaines cultures ? Il y a aussi ce truc d'attendre que l'enfant soit né avant d'envisager la suite.
Ouais.
Et ça aussi, ça veut dire que si on le prend en compte, cette partie ethnologique, culturelle, de tu prépares la chambre d'un enfant qui peut-être ne verra pas le jour.
Ouais.
Or, dans certaines cultures, etc., c'est pas le cas. Comme tu dis, on le prépare en amont. Mais est-ce que ça joue pas aussi dans comment impliquer les parents à préparer l'arrivée d'un enfant qui eux-mêmes ne conscientisent qu'au moment où l'enfant est là. Et même quand il est là, c'est step by step.
Ouais.
Dans certaines cultures, tu donnes même pas de nom à ton enfant avant le septième jour, etc. Est-ce que tu penses que ça a pas aussi un impact par rapport à ton propos ?
Bah, je pense que certainement ça a un impact sur, la manière dont nos parents nous ont eus et comment ils nous ont élevés, etc. Moi, je pense qu'on est tous là, on est nés en France pour la plupart d'entre nous, je pense, et on y a grandi. Donc
pas Bouba. Pas Bouba.
Non, j'allais dire à part Fernand.
On a été pétris de cette culture-là, et c'est peut-être un peu plus naturel pour nous. Tu sais, maintenant, on fait tous des baby showers, on fait
des gender parties,
des trucs comme ça. Donc on s'est imprégné de tout ça et c'est peut-être moins ça la problématique pour nous, mais ça reste maintenant à nous d'inventer notre propre parentalité. Maintenant qu'on a vu un peu ce qui se fait ici, comment nous on a grandi, c'est à nous de prendre le meilleur de... C'est pour ça que je trouve que c'est génial ce que vous faites, parce que vous arrivez avec un héritage, c'est chez Sopark, vous arrivez avec, et puis tous les gens autour de la table, avec un héritage, avec des valeurs qui viennent de nos éducations, de nos traditions, et puis vous prenez aussi ce que vous avez appris, que ce soit des méthodes, etc., mais aussi des chiffres. Je vois que tu lis, je vois que tu t'imprègnes de tout ça, t'essayes de comprendre pour arriver à trouver un nouveau modèle de parentalité. Et je trouve que c'est très dur aussi parce que à chaque fois qu'on essaye de... Tu vois, moi j'ai quelques chiffres. Je sais que par exemple, il y a une étude de l'UNICEF qui est sortie il y a quelques années qui dit que 60% des jeunes de quartiers populaires en primaire et au collège sont terrorisés par l'échec scolaire contre des chiffres moins importants dans les endroits plus aisés. Donc en fait, depuis tout petit, on a envie de réussir. Et il y a des chiffres qui montrent que les parents immigrés, ils ont autant, voire plus d'aspirations éducatives pour leurs enfants que les parents français d'origine.
Y a plus
d'enjeux. Ils ont tous envie que leurs enfants aient au moins le bac. Les chiffres, ils sont assez forts. Et donc, il y a cette envie, il y a ce truc, on veut que nos enfants réussissent. Nous, on sait qu'on doit réussir, mais il y a quelque chose derrière après qui ne va pas, parce que les chiffres, ça ne va pas. Le bac, ça ne va pas trop. Justitueur, ça ne va pas trop. Mais d'où vient ce décalage ? Tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas créé nos outils. Et à chaque fois qu'on essaye que nos parents ou que les parents de quartier populaire essayent d'investir ce rôle, l'autorité, etc., il y a des choses qui viennent...
Casser tout ça.
Casser. Par exemple, dans nos cultures, on est quand même un peu... tu fais une bêtise, je te dis pas, tu seras privé de dessert ce soir. Il y a quand même des modalités de parentalité qui sont un peu plus physiques. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, c'est illégal. Aujourd'hui, si ton enfant, il a le malheur de dire à la maîtresse que tu lui as mis une fessée ou quoi.
Et c'était pas des fessées.
Voilà, nous aussi, il faut doser, tu vois. Ouais,
c'était des objets non identifiés. Non,
exact.
Aujourd'hui, volant. Tu risques d'aller en prison, tu risques de voir ton enfant être récupéré par les services sociaux. Enfin, donc à chaque fois qu'on essaye de reprendre cette autorité, on a des choses qui nous freinent. Et la deuxième chose, pour moi, qui est super importante, c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'être un parent issu de quartier populaire, de milieu social modeste, etc. Parce qu'en fait, l'autorité, c'est quoi ? En fait, l'autorité, c'est un enfant qui te regarde avec admiration, qui te regarde, qui a confiance en tes choix, qui dit « Maman ou papa, il sait mieux que moi. » Mais quand toute l'année,
la société te dit que ton parent, c'est un loser, que ton parent, il sert à R, que ton parent, il gratte les allocations, que ton parent...
Il est toxique.
Il est toxique, ou il sait pas parler français, ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Et ben, tu grandis avec l'image d'un... On a tous, à un moment donné, eu un peu honte de nos parents parce qu'ils parlent comme si, ou parce qu'ils s'habillent comme ça, ou parce qu'ils savaient pas d'elle truc.
Ou parce qu'ils comprennent
et on
pas.
Et ensuite, en grandissant, on a déconstruit. Mais c'est dur, à 15 ans, 14 ans, 13 ans, quand t'as l'impression que t'es meilleur que tout le monde, de dire je vais écouter maman, qui est femme de ménage, qui est caissière, comme la mienne l'a été quand j'étais adolescente. Et parce que j'ai pas envie de faire ça après. Et c'est dur de voir, du coup, de reconnaître la force de nos parents,
leur légitimité,
leur dignité, tout ce qu'ils nous apprennent. Quand la société nous renvoie une autre image. C'est pour ça que je pense que c'est important de... Ben, on ne peut pas compter sur l'école, sur ça, parce que l'école ne dit pas que nos parents ont construit ce pays, ne disent pas qu'ils apportent aujourd'hui une force vive économique, culturelle, etc. Et c'est pour ça que je trouve que les associations, les référents sociaux, leur rôle, c'est aussi de dire...
De redonner une place.
Mais il faut qu'ils le conscientisent, comme
et tu
dis.
C'est pour ça qu'on a fait cette web-série dont on avait parlé d'enfants, nos darons, où on faisait parler des enfants avec leurs parents sur leur trajectoire de vie. Quand est-ce que t'es arrivé? C'était quoi ton rêve quand t'étais petit? Il y en a qui découvraient qu'au pays, leurs parents, ils avaient fait des études, que quand ils sont venus en France, leurs diplômes, ils n'ont pas été reconnus. Voilà. Donc, il y a plein de... Il y a cette légitimité à restaurer, je pense.
Alors... Juste avant de t'entendre, Bouba, ou Barberiche, c'est très important, tu as mis en avant quelque chose de très fort au niveau des outils. On manque d'outils et j'aimerais vraiment que le propos soit bien interprété. Ce n'est pas de dire que les coûts, qui était la réponse éducative que nous, on a reçue, qui était apportée parce que c'était le fonctionnement et c'est comme ça qu'ils nous ont éduqués, que c'était... la solution, mais c'est de dire une fois que vous avez légiféré le fait que les coûts sont interdits et qu'il y a des sanctions derrière et que c'est pas bien, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais c'est comment outiller les parents pour faire différemment. Ça veut dire qu'on sait très bien que quelle que soit la méthode, la lecture, l'envie de bien faire ou de faire différemment, dans les moments de stress et d'énervement, là où l'émotion est au plus haut, on va faire appel à ce qui résonne en nous comme la solution. Donc quand on a été éduqué en étant frappé quand on faisait une bêtise, on a beau lire des livres. Au moment où la colère est au summum, que l'enfant pose un acte qui pour nous est de l'ordre de l'inaudible, la honte, tout se mélange, et ben, des fois c'est le coup qui part parce que c'est ton intrinsèque. Et ça veut pas dire... Et du coup, je pense que le réel enjeu, c'est de prendre conscience de ça, de dire ok, c'est légiféré, c'est interdit. Ça, c'est un fait. Mais comment on accompagne le parent à faire différemment? C'est-à-dire comment on travaille sur ses émotions, comment on l'amène à... anticiper les sanctions pour que quand l'acte est posé, et moi je dis souvent ça en parentalité, c'est si tu anticipes les sanctions de la moins grave des bêtises à la plus grave, celle que tu estimes la plus haute sanction possible, si tu l'as anticipée, au moment où ça arrive, tu feras pas place à la colère, mais tu iras dire qu'est-ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que là, t'as volé, là, t'as dealé, qu'est-ce qu'on avait dit? Et du coup, c'est clair, en fait. Et je pense que tu soulèves un point très important. Toute ton analyse a été tellement pertinente. Mais ce point-là, il est super important. Et il faut vraiment que les gens, en entendant ça, ils se disent pas, mais elle est en train de dire, faut frapper les enfants. Non, ils se disent, quelle est la solution qu'on peut apporter pour?
Oui, bien sûr. Merci pour cette clarification. L'idée, c'est que tu interdis des choses, mais tu proposes rien derrière.
Exactement.
Et tu interdis sans... Il n'y a eu aucun débat, en fait. C'est passé. Et du jour au lendemain... ta méthode d'éducation que tu connais toi que ça, elle devient criminalisée en fait. C'est même pas, tu vois, il n'y a pas eu de progression, il n'y a pas eu de... Du jour au lendemain, tu te retrouves hors la loi parce que tu éduques ton enfant comme toi, c'est la seule manière que tu as pour l'instant. Donc c'est super important et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure et je le redis, d'être dans l'accompagnement à cette parentalité, diffuser des outils, parce que ça, c'est dur d'inventer quelque chose de nouveau.
Alors
qu'il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont des expériences et il faut réussir à, comme je disais tout à l'heure, créer un mélange de ce qu'il y a de mieux dans l'éducation qu'on a reçue et ce qu'il y a de mieux dans l'éducation qu'on voit autour de nous et dans ce qui existe en France aujourd'hui. Et je pense qu'on va y arriver.
Merci Inès pour ce propos. C'est important hein, de clarifier parce que en plus quand on parle d'un sujet
chaud,
et puis non et puis non mais on parle d'un sujet qui est tellement sensible, on en parle avec bienveillance. Nous, on l'a dit, il y a pas de science infuse. On est juste là pour ouvrir des débats et pour que les gens autour de leur tasse ils puissent discuter. Mais on sait aussi qu'il y a tous les haters, tous ceux qui veulent pas qu'on s'élève, tous ceux qui veulent pas que ça change. Et même si ça peut choquer. Mais c'est une réalité. Il y a des gens qui ont un intérêt à ce que ça évolue pas. Et du coup, je voudrais pas qu'ils se servent d'un propos de ce qu'on puisse dire pour détourner notre légitimité, notre expertise. Bouba, Barberiche.
Ce que tu dis, ça fait écho à plein de choses, tu vois.
Sur quoi ? Sur les coups ?
Ouais, les coups aussi, je vais en parler.
De toute façon, vous êtes dans la polémique. Vous, par contre, je vous sèverai pas. Je vous laisse avec vos propos.
Je vais en parler des coups aussi, tu vois. Je me souviens avec des collègues être partis à un conseil de discipline par rapport à un jeune. Et le jeune, en fait, à un moment donné, il y avait sa mère. Nous étions là avec mes collègues, il y avait tous les professeurs. Et du coup, à un moment donné, la maman s'exprime et le jeune se moque de sa mère. Enfin, il rigole. À un moment donné, sa maman, enfin, tout le monde s'arrête et tu le connais d'ailleurs. Tout le monde s'arrête, à un moment donné, on est comme ça et on se pose la question, mais pourquoi tu rigoles ? Et sa mère, elle dit, il se moque de moi parce que j'ai un accent. Sa maman était tchétchène, tu vois. Et on l'a regardé comme ça et bon, on s'est expliqué avec lui.
Mais il était drôle ou pas son accent ? Pardon.
Amis, c'est incroyable.
Ah non, on peut pas être parfait, on peut pas.
Par rapport aux auditeurs qui vont peut-être écouter ta blague, j'aimerais que tu reviennes.
Tu peux me sauver, Inès, pour les auditeurs qui ont entendu ma blague.
N'oubliez pas qu'au début, elle a dit qu'elle était garante du cadre. On est à l'image du commandement en même temps.
Bah, exactement.
Et du coup, voilà, moi, je voudrais rebondir aussi sur au niveau des coûts, parce que je sais que il y a une. Enfin, je l'ai déjà dit dans cette émission, mais. J'ai un ami qui, à un moment donné, il était avec sa sœur en plein repas et à un moment donné, il disait à sa sœur et à sa mère, moi, si mes enfants, je leur mets les coups, hein, comme maman, tu nous as élevés. Tu vois. Et sa sœur lui a dit, mais ça, c'est de l'héritage, parce qu'ils sont guyanais et Martin, enfin Guadeloupéen. Il a dit, mais ça, c'est l'héritage de tout ce qui était esclavage et les coups qu'on donnait aux esclaves à l'époque. Tu vois. Elle lui a sorti des références, tout, et du coup, il a pris la décision de, faut parler aujourd'hui, tu vois. Moi, je pense aussi qu'il y a un grand auteur du rap qui a parlé de valeurs inversées. Et je pense que l'ultra-capitalisme a pris le pas sur tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un dérèglement, en vérité. Il y a eu un dérèglement dans les années 2000. Et ce que je pense, c'est que les parents, ils ont eu du mal à s'adapter à ce nouveau monde. De même que nous, là, les gens qui avaient la vingtaine à l'époque, en fait, de 80, 90, 2000, c'est totalement différent. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Et on a grandi dans des années 2000 qui étaient vraiment différentes. Et je pense que quand on parle de co-éducation aussi, on parle du fait qu'il y a des familles aujourd'hui, je sais que Barbeux, des fois on en parle, il dit non, c'est pas la raison, mais la monoparentalité. Et tu as vu, dans les chiffres, il y a un mariage sur deux qui finit par un divorce à cause de l'argent. Et c'est beaucoup nos générations à nous, les trentenaires, quarantenaires.
Bouba, est-ce que les parents d'aujourd'hui sont pareils que les parents d'hier ?
Ils sont dans la hype là.
Les parents d'aujourd'hui, c'est nous. Pardon.
Oui, c'est nous.
Parce que moi, je reviens souvent quand les gens me disent « Ouais, c'était mieux hier. » Non. Hier, c'était pas nous.
Non, en fait, je dis pas que c'était mieux ou moins bien. La question que je pose, parce que là, on est dans un domaine bien précis. On est dans l'éducation. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle quand même, et tu as quand même parlé de modèle, de rôle modèle. C'est-à-dire que tu disais qu'aujourd'hui, il y a certains enfants qui ne voient pas leurs parents comme des modèles. Alors qu'avant, ton parent, c'était ton modèle. Donc moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que aujourd'hui, du fait que les parents aient peut-être changé, en tout cas dans les postures ou en tout cas dans le regard qu'on peut en avoir, eh ben, ça n'ouvre pas la fenêtre dont je parlais tout à l'heure à d'autres personnes qui rentrent dans l'éducation de l'enfant.
Alors vas-y, là, il y a de quoi faire.
Est-ce que vous ne pensez pas que tu parlais de modèle, donc cette diffusion de modèle en fait, qu'on avait nous à l'esprit, elle n'est pas due aussi à l'expansion des réseaux sociaux. Donc du coup, ce que tu prenais en tant que standard, modèle entre guillemets à l'époque, qui étaient tes parents, est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi le fait que ces réseaux sociaux sur lesquels tu baignes pendant toute la journée ou pendant toute l'année, eh ben c'est un autre type de modèle que tu recherches, que celui que voulaient t'inculquer tes parents à l'époque.
Donc toi, ta réponse est non, ou si c'est oui, ou
c'est
non.
Je me suis moi-même fait signer une ligne. moi, je pense que le rôle des parents, il n'est plus celui qu'il était auparavant. En fait, il y a plus de... Il y a Inès, à un moment donné, qui a parlé de... d'échanges, de là, ce qui manque, c'est la communication aujourd'hui, à mon sens. C'est qu'on parle moins parce qu'on a peut-être moins le temps, de par nos problématiques professionnelles ou de par la problématique familiale, le fait que les familles puissent être monoparentales. Effectivement, c'est une donnée qui peut être importante par rapport à la présence que l'on a auprès de l'enfant. Et là, je prends mon rôle en tant que professionnel. Et notamment, je prends le cas de l'une de mes collègues qui s'appelle Laure Dupont, que je salue, qui travaille au service des sports, qui essaye justement de remettre les parents dans leur rôle à travers des échanges, à travers le sport avec leurs enfants. Donc, il y a une action qui s'appelle Formel et qui, du coup, permet aux jeunes filles de 9 à 15 ans le mercredi après-midi, de pouvoir faire du sport et pour pouvoir justement avoir une communication avec les parents et pour leur montrer aussi que leurs enfants, à travers le sport, peuvent être valorisés, elle essaie d'avoir un contact, d'avoir des interactions avec ses parents parce que ils ne sont pas toujours au fait de ce que font leurs enfants. Donc je pense que c'est important aujourd'hui, en tant que parents, d'avoir cette présence qui est importante et parce que nos enfants en ont besoin. De partager même ces moments qui peuvent être anodins, mais qui sont, enfin pour ma part, moi je suis un peu un papa poule. J'aime bien partager du temps avec mes enfants, enfin des choses qui peuvent être, même leur courir après, on fait un épervier ou des choses qui peuvent être bêtes, mais pour moi ils ont du sens parce que l'enfant il est là, il sourit, il est content et il m'en parle comme s'il avait 5 ans. Papa, tu te souviens ? Ouais, je me souviens. Mais c'est important parce que eux, à leurs yeux, c'est des choses qui font leur effet et qui leur permettent en tout cas d'être épanouis à ce jour.
Inès ?
Non, moi c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question, déjà parce que je ne suis pas parent, je ne suis pas maman.
Mais t'es tata ?
et j'ai un chat.
Alors, donc, t'es maman
je
un
pense
peu.
Qu'il y a une partie quand même. Non, je rigole. par contre, moi, je me suis intéressée à la parentalité par rapport au programme qu'on mettait en place pour les petits. On s'est rendu compte, et on n'est pas les seuls en tant qu'association, qu'on avait du mal à mobiliser les parents. C'est-à-dire qu'ils nous envoient leurs petits tous les samedis, on les emmène en voyage, mais c'est rare quand un parent arrive, frappe à la porte et dit « Excusez-moi, mon enfant, il passe tous les week-ends chez vous. Il va partir. Qui êtes-vous, en fait ?» Et ça, c'est vrai que c'est marquant. Et j'arrive pas forcément à l'expliquer. Ça doit être une question de temps. Il y a peut-être plein de facteurs. C'est aussi beaucoup des familles monoparentales. Donc, quand tu élèves un enfant seul, tu es soit au travail, soit en train de t'occuper de lui à la maison le soir. Donc, est-ce que tu as le temps d'aller faire le tour des assos, etc.
Inès, t'es dans le milieu depuis combien de temps ?
Ça fait, moi, 15 ans que je suis dans l'associatif et 7 ans que j'ai créé GetUp.
Est-ce que tu vois une différence entre les parents d'il y a 15 ans et ceux d'aujourd'hui ?
Les parents d'aujourd'hui sont quand même un peu plus à l'aise avec le téléphone, avec remplir les papiers, c'est plus simple de communiquer aussi, de leur expliquer ce qu'on fait. Ils sont certains passés par l'associatif aussi, donc ils comprennent un peu plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit quand même aujourd'hui que les jeunes qu'on accompagne, quand ils sortent de l'année, parce que nous c'est des ateliers tous les samedis, puis des événements pendant les vacances et après un voyage scolaire, enfin un voyage d'études à la fin, que d'une année sur l'autre, ils changent, que les parents remarquent qu'ils changent. Généralement, ils viennent à la fin et ils nous disent mon enfant a changé, vous avez fait quoi ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Et surtout, ça crée un écart. Ça crée un écart entre l'enfant et le reste de sa famille et ses parents. Et c'est là que nous, on a commencé à se dire, attention, peut-être c'est dangereux. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas que l'enfant il se retrouve plus à la maison, qu'il ait l'impression que c'est quelqu'un d'autre, que son environnement n'est pas bon, etc. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, il faut aussi que les parents y montent en compétence, en compréhension, que le décalage ne se fasse pas entre l'enfant et le parent pour qu'il puisse toujours être dans son rôle. Et du coup, moi, j'ai plus une question aujourd'hui pour vous, et en particulier dans l'éducation
des garçons, parce qu'on se rend compte aussi sur nos programmes qu'il y a plus de filles qui viennent, elles sont plus assidues, elles sont plus... et les garçons sont plus distraits, ils ont d'autres sources d'amusement. Pour eux, la rue, c'est aussi un espace où ils sont à l'aise. Et donc, entre la rue et venir faire un atelier un samedi après-midi, parfois, c'est pas toujours évident. Mais du coup, vous qui connaissez des parents, quelles sont les pratiques aujourd'hui que vous repérez chez certains parents qui font, qui leur permettent d'avoir ce rôle-là et de prendre cette place-là ?
Le lien. En tout cas, nous, chez Soparks, ce qu'on prône, c'est le lien.
Donc la communication.
La communication, mais c'est surtout, non, je dirais les compétences intrinsèques de savoir-être avant le savoir-faire. Tu peux ne pas avoir un savoir-faire, une expertise parfaite. Par contre, si tu n'as pas le savoir-être, si tu n'es pas modeste, si tu n'es pas respectueux quand tu t'avises à un parent, si tu l'infantilises, ça ne fonctionne pas. Si tu prends la parentalité par le prisme de ce qui ne va pas, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, et ben forcément, quel parent a envie de pousser une porte où on va te pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Par contre, ce qu'on constate chez Soparks, c'est que quand on ouvre un lieu, qu'on accueille les parents sans prendre le parti de dire que ça va pas, mais juste de dire venez partager un moment avec nous, venez boire un thé, venez aider les parents, venez aider les parents qui sont en difficulté, parce que vous êtes une compétence vive. Là, ils viennent. Et je dis toujours, il y a aussi le fait de prendre conscience de qui on est. On travaille beaucoup dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on travaille avec des populations issues. En France, il y a tellement de pays, d'origines différentes, avec des cultures, des codes. Si on part de ce principe-là, quand tu t'adresses à un adulte, quelle que soit ton expertise, quel que soit ton savoir, quel que soit ce que tu as envie de leur transmettre, part du principe que d'abord, quand ils te regardent, ils voient leur gamin. Ils voient une gamine, ils voient une petite puceuse. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive devant une femme qui a l'âge de ma mère, c'est pas par rapport à ma compétence ou ce que je veux lui apporter ou là où je veux qu'on aille échanger pour trouver un consensus entre ce qu'elle pense, ce que je vois, ce que je constate et ce que ça pourrait apporter à son enfant. C'est d'abord d'arriver avec la modestie et le respect qui lui est dû. T'es mon aîné. Et en plus, dans la façon dont on a éduqué, il y a un respect. T'es une maman, en fait. Donc déjà, quand j'arrive vers elle, j'arrive comme si c'était une tantine, comme si c'était ma tantine. Et du coup, je lui donne ce respect-là et je lui dis, entre ta sagesse, ton expérience, ton éducation et mon expertise de ce que j'ai pu lire et de ce que je vois, je suis sûre qu'il y a un terrain d'entente entre les deux. Et déjà, les gens, ils arrivent en se disant, OK. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, c'est quelque chose qui se vit, en fait. C'est quand tu es en face de la personne, tu peux pas l'inventer. Soit tu l'incarnes, soit tu l'incarnes pas. Et je pense réellement que les gens, ça, ils le sentent. Donc, quand tu ouvres un lieu qui est adressé aux familles et que tu y vas d'abord avec ton cœur avant d'y aller avec ton expertise et ton envie de le faire changer, essaie d'abord de le comprendre. De lui dire que tu sais pas mieux que lui. Par contre, ce que tu sais, c'est que là, le gamin, il va pas bien et que tu es convaincu qu'elle veut que son bien. Et je pense que ça, c'est la première des clés, c'est redescend. T'as une expertise, t'as un savoir, mais quand tu t'adresses à un adulte, t'adresses pas à un enfant. Et souvent, les cafés des parents, les lieux, c'est quelque chose de descendant, c'est quelque chose où tu es le sachant, tu sais, lui, il sait pas, votre enfant, ça va pas, donc force est de constater que vous, vous faites pas le boulot. Et déjà, ça peut pas fonctionner. Nous, les premiers, on est adultes, qui va venir me dire dans ma profession ou n'importe, tu sais pas, donc je suis là pour te montrer. Bah, je pense que... Et pour les jeunes, ça s'applique aussi. Ils sont jeunes, mais ils ont besoin du respect qui leur est dû. T'es jeune, y a plein de choses sur lesquelles tu es en train de te construire. Pour autant, moi, en tant qu'adulte, je peux t'apporter quelque chose. Mais je te respecte dans ton cheminement de pensée, dans tes croyances, dans tes valeurs. Je pense que c'est ça la clé.
C'est bon, je pense que Inès, ça peut ouvrir son podcast. Elle a des questions tranchantes.
Je crois que t'es la première à m'avoir.
Mais parce que c'est un privilège de pouvoir être là et de vous écouter aussi,
à m'avoir
d'apprendre
testé.
Beaucoup de votre expertise sur la question de parentalité. Donc merci.
Et puis tu sais, pour la question que tu posais, Anne, sur est-ce que les parents d'aujourd'hui et les parents d'hier sont les mêmes ? Pour moi, c'est non. Mais pourquoi ? Parce que les parents d'hier, ils avaient plus de souplesse. C'était pas légiféré. Aujourd'hui, la parentalité, elle se professionnalise. Ça devient un métier. Donc, il y a des gens qui étudient et du coup, qui veulent être reconnus dans leurs études. On a conscientisé, on l'analyse. Il y a eu les philosophes qui sont passés, etc. Donc oui, le parent d'hier, il n'était pas celui d'aujourd'hui, mais parce qu'aujourd'hui, tout est intellectualisé.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cinéma aussi. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. il y a certaines choses qu'il ne faut pas intellectualiser. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont à l'instinct. Il y a des choses qui sont à l'instinct, il y a des choses qui sont à la bienveillance, l'amour. C'est ça, en fait. Dès lors, de toute façon, moi, je le dis tout le temps, et je dois me répéter à chaque fois, c'est que dès lors que tu travailles avec du public, il y a des ingrédients que tu ne peux pas enlever. Tu vois, l'écoute, la bienveillance, l'amour. Si tu n'as pas ça, tu peux avoir fait 20 ans d'études, ça va servir à rien. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, moi, je trouve en tout cas, lorsque je tombe sur certains professionnels, bien entendu, il y en a qui répondent à ce que je viens de dire précédemment, mais en fait, il y en a beaucoup qui endossent un costume. Je suis un professionnel, donc je connais.
Ils viennent resserrer des boulons, quoi. Ils ouais, viennent pas exactement. Parler avec...
Ouais. Bouba.
Je pense. Hein.
Mais est-ce qu'il ne faut pas une formation à l'amour ? Former les gens à aimer ?
On a un prochain sujet de là parentalité.
Là. Bouba.
Oh, monsieur le président.
Love Doctor.
Black Doctor, c'est pas mal ça, ah, c'est pas Black 10.
Non, non,
la France
scred,
est
hein.
malade, l'école est malade. C'est est-ce qu'il ne faut pas une scred. École Black Doctor, dis-nous tout.
Non, mais ça fait écho à ce qu'il dit, parce que...
lui, on voit qu'il travaille au bureau des pleurs. Ouais, ouais. On l'appelle, son téléphone.
Vas-y, vas-y dis
mais la vérité, c'est vraiment c'est très important ce que tu dis.
Vas-y, amour, dis-nous.
Non, mais c'est vrai que... Enfin, Barbeau, je le répète assez souvent, mais c'est la vérité. C'est vrai, en fait. Tu vois,
ah, tu doutais.
L'amour est au centre de tout, en vérité. Tu vois, c'est-à-dire que... Moi, je pense qu'il y a, comme je disais, hein, par rapport au cheminement de ce que je raconte depuis tout à l'heure, il y a, dans les années 2000, il y a vraiment eu un problème, et il y a eu un problème de carence aussi, tu sais, en termes de transmission, en termes de pas mal d'autres choses encore, tu vois. Et jadis, il y avait des personnes ressources. C'est pour ça qu'on parle de coéducation. Donc, ces personnes ressources, elles étaient tous dans la même dynamique sociale, en fait, et sociétale. C'est ça qui se passait avant, tu vois. Et du coup, moi, je pense qu'il faut recréer ce truc-là là, qu'il y avait avant d'éducation. Je le répète, mais d'éducation collective. En fait, il faut qu'on arrive à le recréer. Je pense que même là, ici, même là, on est en train de le recréer même, quelque part, tu vois, de manière informelle. Même nous, dans nos cercles, c'est le fait qu'on se côtoie, qu'on se voit à des moments donnés, on recrée ça. Il faut le recréer absolument parce que l'ultra-capitalisme, il a pris le pas sur tout. Et qui dit capitalisme
dit que l'humain n'est plus
au centre.
Ne très plus.
C'est pas l'amour qui est au centre. Hein. C'est l'argent, la rentabilité, puis tout ça.
Maintenant, je voudrais vous poser une question, un tour de rôle. J'aimerais savoir comment vous définir, non pas vous définiriez, mais quelles sont pour vous les différentes coéducations que vous identifiez autour de vous. Et la deuxième question, c'est par rapport à votre réponse. Est-ce que vous arrivez à identifier un moment stratégique dans votre vie où elle s'est exprimée, cette coéducation ? Exemple, pour que ça soit clair pour tout le monde, si moi, j'identifie la coéducation chez le médecin, je donne un exemple exprès que vous n'allez pas forcément donner pour ne pas spoiler ceux qui veulent parler de l'école. Je vais donner un exemple où elle s'est manifestée. Et ben, une fois, j'étais chez le médecin et il a sensibilisé ma mère sur l'importance de m'emmener voir un gynécologue par rapport à l'hygiène de la femme. Chose qui ne se fait pas au pays. Donc, là, c'est un moment pour moi où la coéducation, elle s'est exprimée. Parce qu'à cet instant précis, si mon médecin traitant qui est en confiance avec ma mère, il ne lui dit pas l'importance du suivi gynécologique pour une petite fille, peut-être que je n'aurais jamais vu gynéco de ma vie. Donc, est-ce que vous pouvez identifier, vous, peut-être une seule...
Je vais bien me jeter à l'eau. Mes pères. Quand je dis mes pères, c'est dans le sens où, étant jeune, on était en groupe. Et j'ai eu la chance d'être avec des pères bienveillants. C'est-à-dire que nous...
P-A-I-R-S.
Exactement.
Des pères bienveillants. Genre, je suis mauvaise en orthographe pourtant.
et du coup, je pense que le fait de me retrouver avec eux, ça m'a conforté, moi, dans ma façon d'être, parce que je l'étais déjà. Et ça m'a accompagné. Lorsque je me suis construit, parce que j'étais adolescent, et jusqu'à l'âge adulte, en fait, on s'est suivi. C'est-à-dire que ce côté bienveillance, ce côté amour, ce côté paix aussi, parce que quand je dis paix, c'est que nous, on vient d'endroits où il y a souvent des rixes, où il y a souvent des rivalités, et nous, on était plus dans ce truc d'être un peu des médiateurs. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'avais beaucoup de médiateurs. Donc, j'ai eu ce rôle de médiateur lorsqu'il y avait des conflits dans mon environnement. Et c'est quelque chose qui m'a suivi. Donc, je pense qu'en termes d'éducation, je pense que le fait d'avoir été avec ces personnes-là a joué dans ce que je suis aujourd'hui.
Tu as un exemple précis où ça t'a... Est-ce que tu as un exemple flagrant où un de tes amis l'a manifesté, t'a marqué?
Non, ça m'a marqué quand nous, dans notre ville, il y avait un conflit avec la ville voisine. Et un jour, mes gars, ils ont décidé de réunir ceux qui étaient en conflit et de les confronter. Mmh. Et je trouve que c'est une bonne chose.
Mmh. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que je me rappelle, quand j'étais petite, il y avait très peu de... Il y avait toujours, dans le collège ou dans la classe, dans la cité, il y avait toujours la personne gentille. À chaque fois que tu lui dis un truc, elle te dit « mais non, arrête, ça sert à rien de faire ça, etc. » Et ces personnes-là, on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues, tu vois ce que je veux dire ?
C'est pour ça.
Elles sont là. Elles étaient là, elles ont empêché plein de conflits, elles avaient beaucoup de respect. On ne sait pas pourquoi, c'est juste, c'était des personnes calmes, des personnes posées. Je trouve que ces gens-là, ils sont sous-cotés de ouf, en fait. C'est pas les stars, et pourtant ça devrait être elles les stars. Pas celui qui se tape à la sortie, pas celui qui machin. Celui qui dit non les gars, pourquoi vous faites ça? Venez, on suit, venez, on se parle, venez, on va jouer taper un foot. Et là, je me rappelle de ces deux, trois têtes de mon enfance à Sarcelles. Et je leur passe le bonjour. Mais ils ont sauvé plein de gens et ils ont fait du bien.
Tu vois ce que tu dis, moi je sais que j'ai des potes, par exemple Judy Kael. Moussa et d'autres, Landry et d'autres, en fait, c'est des mecs qui étaient tellement joyeux, en fait, qu'ils propageaient cette joie autour d'eux. Je me rappelle, eux, en bas de leur bâtiment, ils faisaient des tournois de foot.
Ouais.
Ils dansaient dehors.
Ouais. C'était une forme de figure d'autorité aussi.
Voilà. Et ils étaient influents dans leur quartier. Et c'est ce qui faisait que dans le quartier, ils faisaient bon vivre. Parce qu'ils faisaient partie des gens qui propageaient, dégageaient ce truc-là. Même si dans le quartier, il y avait... des côtés sombres, mais dès qu'eux, ils étaient là, en fait, il y avait une forme de respect qui s'installait. Et même les plus thugs des thugs, ils avaient du respect pour ces mecs-là. Mmh. Et c'est vrai que je vais dans le sens de ce que tu dis. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins.
Mais est-ce que ces personnes-là ne partent pas parce qu'elles ont envie d'être tranquilles, en réalité?
Oui, parce qu'après, tu fais ta vie.
Tu es dans un cheminement aussi où tu as envie de te retrouver... d'évoluer autrement et puis de quitter aussi cet environnement pour peut-être aussi permettre à tes enfants de voir autre chose. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ces gens-là aujourd'hui ne sont plus dans nos quartiers parce que...
Non mais quand je dis ne sont plus, parce qu'à un moment
donné... Oui mais tu vois ce que je veux dire.
Parce que moi je suis du parti de il faut quitter le quartier. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester dans le quartier pour moi.
Reviens de manière sporadique, on va dire.
Exactement, mais je parle qu'ils n'ont pas eu d'héritier. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'héritier.
Mais ça,
parce que
on en discute souvent avec Booba. Est-ce que nous-mêmes, en tant que piston de transmission, on n'a pas eu un moment donné, enfin là je te prends en général, on n'a pas eu un moment donné ce souci de vouloir côtoyer nos petits pour pouvoir les amener à pouvoir prendre le flambeau? Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, il y a eu aussi ce trou d'air qu'il y a eu et qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec...
Tu vois, moi je te donne un exemple, je te donne mon exemple. Tu vois, moi j'ai accompagné beaucoup de petits, sans même avoir d'association. C'est-à-dire que comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai été éducateur sportif, donc j'ai été entraîneur de ma ville à Villepinte. Et je faisais du rap, j'avais un studio, j'ai emmené des petits pour la première fois en studio, dans mon studio. J'ai fait des clips pour des jeunes, j'ai fait plein de choses clairement. Tu vois, où j'accompagnais les jeunes à être un peu dans notre ombre, mais en tout cas, j'essayais de les orienter vers quelque chose de ce que je trouvais de bon. Et des années après, quand je réfléchis et je regarde un peu comment les jeunes fonctionnent, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont dans ce côté positif. Aujourd'hui, tu vois, même... le fait que je vois, moi... Tu sais, moi, il y a des petits que j'ai gardés, je les vois maintenant, ils ont des terrains, tu vois. Mais moi, ça me fait bizarre, moi. Parce que moi, je les ai vus petits. Et je me dis, mais à quel moment ça a basculé? Tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis ça, moi.
Tout à fait.
Qu'aujourd'hui, t'as plus de bicraveurs que de mecs qui jouent au foot en bas des bâtiments.
Clairement,
en vrai.
clairement.
Mmh. Alors qu'avant, l'été, t'attendais l'été pour faire ce genre de choses, tu vois. Donc la bascule, à un moment donné, elle s'est opérée à quel moment? C'est la question que je me pose.
Il nous a bien inspiré avec
ton exemple. T'sais, j'aime bien le vanner, tu vois. Celui qui est en face de nous là-bas. Là, tu vois. Mais il fait le mec humble, mais en vérité vraie, lui fait partie de ceux-là. Tu vois, dans, là-bas, là, dans le coin là-bas là, dans lequel on habite, il n'y a qu'un seul Fadamon. Et c'est grave carrément, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'un mec de son âge, qui n'est pas dans les affaires, qui n'est pas dans la délinquance, et qui passe, comment dire, son dialogue passe bien avec que ce soit des mecs sur des rintés, que ce soit des mecs à l'école, il l'écoute. Mais le constat que j'ai, c'est un mec de ma génération, et depuis 10 ans je suis dans sa ville, il est le seul à être dans cette posture-là. Lui et un certain bonbon. Tu vois, ils sont deux. Et je me dis que c'est très bien, mais c'est très grave.
Du coup, où est-ce qu'on vote pour
que tu deviennes maire? Mais pour une fois, il y aura un engagement aux urnes qui va être incroyable. Du coup, Bouba, est-ce que tu veux enchaîner avec un exemple où cette coéducation s'est manifestée pour toi?
J'en ai même deux, tu vois. Jadis, lorsque je suis arrivé en sixième, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, du coup... j'ai dû redoubler. Ma maman m'a dit, bon, elle a essayé de trouver des solutions. Je ne sais pas comment elle a trouvé, mais nos mères sont très fortes. Tu vois, elle a cherché dans le quartier. Et puis, à un moment donné, elle est partie à la maison de quartier Nelson Mandela, qui est au plein milieu de la Grande Borne. Donc, du coup, elle a dit, là, tu vas faire tes devoirs là-bas. C'est bon, c'est fini là. Tu ne vas plus partir dans tous les sens. Et du coup, là, j'ai eu des gens qui ont été mes animateurs quand j'avais 12 ans et que j'ai revu il y a peu et que je revois aussi de temps en temps. Du coup, ils m'ont aidé à me recadrer, me recentrer et à travailler à l'école. Parce que j'ai été parti dans tout et n'importe quoi, tu vois. Mmh. Du coup, ça a vraiment été des personnes ressources qui, aujourd'hui même, quand je les vois, je les ai vues récemment, malheureusement, à une veillée, j'étais là, je les ai regardées, et j'ai toujours ce respect pour eux. Tu vois, aujourd'hui, ils ont la cinquantaine, et je les ai regardées, j'étais, mais... Et en plus, dans le même centre dans lequel j'ai été quand on avait 12 ans, tu vois, quand j'avais 12 ans, 11 ans, et c'est, voilà, c'est vraiment des personnes ressources qui ont contribué au fait de nous éduquer, en vérité, parce qu'ils nous ont transmis des valeurs. Et au même titre que toi, tu as fréquenté un groupe de personnes bienveillantes, je veux dire. Moi, j'ai fréquenté une équipe qui s'appelait le CDR à l'époque, à Grigny, et c'est toujours mes gars. On a toujours le groupe WhatsApp tous ensemble. Et en fait, on avait même un code d'honneur, nous. On avait créé un code d'honneur avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. On s'était inspiré des Black Panthers, on était vraiment... beaucoup centré sur la culture afro et tout ce qui va avec. Et du coup, il y a un certain Raïm qui nous a rejoint à l'époque, il marchait par là, comme Ken le survivant, tu vois. Il était là. Et un jour, il vient nous voir, il nous dit, les gars, il faut apprendre votre culture. Il faut que vous sachiez qui est qui au niveau de l'Afrique, au niveau des personnes référentes, tu vois, au niveau de nos cultures. Et il nous a transmis des livres. Et du coup, on s'est mis à lire pas mal de livres, tu vois, dont Cheikh Diop et pas mal d'autres livres. Et il nous a aussi transmis, voilà. Tout ce côté assez spirituel, tu vois. Et du coup, ça a contribué à notre éducation. En fait, nous, on a fait en sorte de s'auto-éduquer. Donc, je suis tombé sur des pères qui, avec lesquels, qui se ressemblent, s'assemblent. Et heureusement, je suis tombé sur eux parce qu'on a fait quelques petites bêtises. Mais ce qui a, comment dire, prédominé dans notre cheminement, c'est le fait qu'à un moment donné, on se soit auto-éduqué par des livres, par des documentaires. Et carrément, nous, on s'est changé des disques durs avec des documentaires.
Wow. Vas-y, attaque, tu vois. Une autre forme de deal.
Mais est-ce que c'est un deal qui a servi?
Ah, il a servi. Il y a des disques durs qui ne sont pas revenus, mais bon, tranquille. Hein, tu vois, tranquille.
Tout le monde a donné son exemple.
Inès, t'as pas, vous n'avez pas
donné? Non,
Inès, je t'en prie, Inès.
Moi, je pense celui qui m'est venu en premier, c'est quand on a accueilli ma tante qui venait du Maroc. Donc, elle est venue, comme beaucoup de membres de nos familles, en visa parallèle, t'as capté. Puis, ils sont restés. Et à ce moment-là, elle cherchait du boulot. Elle ne pouvait pas du tout se payer un appart. Donc, elle est venue habiter avec nous. Et du coup, pendant presque 3 ans, j'avais 2 mamans. Et puis une maman stricte et une maman un peu plus cool avec qui je pouvais raconter des choses, qui m'emmenait aux activités mercredi quand maman elle travaillait. Et ça, je me rappelle que c'était une belle période de ma vie parce que je me suis sentie tellement soutenue à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai quelqu'un pour m'écouter en plus, j'ai une deuxième maman. Et elle m'a apporté des choses que j'ai eu des conversations avec elle que j'aurais jamais pu avoir avec ma mère.
j'ai pu faire des choses parce qu'elle a pu m'emmener. Et ouais, je trouve que c'était une très belle période de ma vie. Et c'est aussi quelque chose qui existe que chez nous, j'ai envie de dire. On a tous vécu un moment avec un oncle à la maison, un cousin, quelqu'un éloigné de la famille qu'on a hébergé. Et c'était, des fois, c'est plus dur que d'autres. Mais c'est aussi des bons moments et c'est aussi, ça enrichit aussi notre éducation beaucoup. De voir quelqu'un qui vient d'arriver en plus. Ça veut dire qu'elle était au moment où, elle était au moment de sa vie. Quand ma mère, elle était arrivée dans les années 90, qu'elle connaissait personne, elle laissait chercher, elle n'arrivait pas trop du taf et tout. Et de voir ça, ça m'a aussi éduquée sur la vraie vie. Donc,
excuse-moi de te couper. Hein. Ça m'évoque la maman de... Il y en a certains qui connaissent mon cousin Kali. En fait, j'ai un cousin qui s'appelle Kali, sa maman elle est venue habiter chez nous, elle avait 8 ans. Mmh. Et du coup, en fait, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Enfin, nos parents, ils emmenaient leurs frères, leurs sœurs et tout ça. Et en fait, mes parents, ils avaient besoin de quelqu'un, de la famille, pour qu'ils viennent nous aider, nous garder, tout ça. Tu vois. Et du coup, moi, jusqu'à mes 7, 8 ans, 9 ans, j'ai cru que c'était ma sœur. Ouais. Tu vois, et un jour, comme ça, je les entends parler.
Tu vois, nos parents qui n'expliquent pas.
Regardez-le. Attends, mais le gars, c'est pas que c'était.
Mais c'était pas ma sœur.
Et ben non, moi, un jour, je suis comme ça, je vais dans la cuisine et je les vois en train de parler, tu vois. Et je vois celle qui, après, est devenue ma tante parce qu'elle parle avec ma mère, tu vois. Elle dit ouais, maman, ils parlent de leur maman au bled. Je dis mais attends, t'es pas ma sœur. Mais non, je suis pas ta sœur, je suis ta tante. Mais c'est ma mère qui m'apprend et elle qui me dit que ouais, en fait, c'est ma tante. Tu vois, je dis attends, t'es ma tante. Ok. Ah ouais,
mais tu te rends compte, en fait, tu mets le doigt sur un vrai sujet en vrai. Ça veut dire que on parle pas dans nos familles. Un enfant qui arrive,
non, mais attends, c'est
l'arrivée, elle est même pas préparée.
Tu nous avais pas laissé procéder.
Non, mais vraiment, ça veut dire que l'enfant il arrive. Toi, t'es un enfant, donc t'as l'impression qu'il a toujours fait partie de ton paysage. C'est pas ta sœur.
Ah, c'est ma sœur.
Non, mais parce que là, on rigole, mais est-ce que vous vous rendez compte, en fait?
Mais ça t'a traumatisé ou pas?
Ah ouais, tu vois, les repas de famille devaient être incroyables. Après, mange. La regarde.
Tu la regardes de travers.
Après, j'avais du mal à passer de « Ah ouais, t'es ma tante, t'es pas ma sœur, donc faut que je te parle autrement. »
C'est incroyable.
Mais en même temps, elle nous a bien éduqués. En fait, nous, quand il y avait les vacances là, avec les cousins et les cousines, avant c'était beaucoup ça, tu vois. Tu vas chez tes cousins dans quel quartier? Nous c'est tous les cousins venaient chez nous et tous les cousins on allait chez à Chartres. Après on allait à Poissy. Ouais. Après on allait dans d'autres villes, tu vois. Et du coup ma tante et ses copines et qui étaient mes tantes aussi. en fait ils nous réveillaient le matin 8h30 9h pour faire le ménage dans toute la maison, tu vois. Et du coup c'est une éducation, hein. C'est-à-dire qu'ils nous ont appris à faire la vaisselle, ils nous ont appris à balayer, à laver par terre. Et ils nous réveillent en mode, levez-vous, dépêchez-vous, c'est parti. Toi, tu laves comme ça.
Toi, tu mettais un petit temps avant de dire.
En fait, c'était son rôle, c'était ta tante.
Ouais, c'est ça. Elles nous ont toutes formées le matin comme ça, elles nous ont levées. Et du coup, je leur remercie.
Mais comment tu peux te lever un matin et dire, ah, t'es ma tante? Chamaillerie sur chamaillerie, au final, maintenant, tu peux plus.
Tu peux plus.
Non, c'est pour ça que je la salue, Maïmouna, ma tante, parce que je ne savais pas que t'étais ma tante jusqu'à ce que.
Et ben voilà.
J'avais 7 ans.
Merci Bouba et merci Inès, parce que du coup, il nous aurait pas fait autant rire. Enfin, d'amour.
Alors, moi, s'il y avait une coéducation, elle serait au nombre de trois. La première, je parlerais de mon oncle, qui est un de mes oncles qui est venu à la maison et qui est venu pendant un certain temps et qui a servi de tampon à un moment donné entre la relation que j'avais avec mes parents et moi-même. Il a été. Très bienveillant, à l'écoute, un confident, quoi. Franchement, je le salue parce qu'il a eu un grand rôle dans mon éducation. Après, je mettrai l'éducation nationale. C'est rare, oui, je sais.
Non, mais franchement, il y a plein de fois, on a rencontré un prof qui nous a sauvé. On ne dit pas assez.
J'ai deux profs, monsieur Lababi et madame Guérin. Monsieur Lababi, prof de maths, je détestais les maths. Et pourtant, il a réussi à me faire aimer les maths avec sa bienveillance. Franchement, il était patient de ouf parce que je ne voulais pas en foutre une. Et il a réussi à me faire kiffer. Et Madame Guérin, parce que l'histoire géo, c'est une matière que je kiffe de ouf. Et elle nous laissait parler. Donc le fait que le prof nous laisse parler, nous laisse nous exprimer, pour moi, c'était quelque chose de dingue. Parce que je me disais, ah, je viens,
Je dis n'importe quoi, elle est là, elle me dit bravo. Je dis,
voilà. Qu'est-ce qui s'est
alors
passé
là, pour le coup, là, non, ça m'a fait kiffer la matière, tu vois. Mais parce qu'elle nous prêtait un intérêt, et du coup, comme moi, je voyais cette personne comme quelqu'un de... Bah, quelqu'un qui m'écoutait, pour le coup, bah, j'avais envie de lui rendre l'appareil, en fait. Donc, du coup, cette dame que j'ai eue pendant quasiment tout mon collège, eh ben, elle m'a fait apprécier cette matière, et j'avais des bonnes notes dans cette matière. Mais parce qu'elle nous écoutait et elle nous permettait d'échanger. Donc en soi...
Mais tu vois, si je peux rebondir, ouais. Tu dis un truc qui est super important dans l'éducation et dans tout ce qui fait changer les trajectoires des jeunes, c'est quand il y a quelqu'un qui, pour aucune raison, sans rien attendre au retour, croit en toi.
Clairement. Clairement.
Et ça change tout. Ça ouvre une porte. Et même si... le changement, tu vas pas le faire tout de suite ou quoi. Tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui a cru en toi, qui attend rien de toi en retour.
Tout à fait.
Et ça te donne envie d'être à la hauteur de cette...
Exactement, ben c'est exactement
ça. De cette confiance et tout. Et je trouve que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on doit garder en tête en tant que parent ou en tant que truc.
Ah, et puis,
le renforcement positif,
clairement.
C'est quelque chose qui n'est pas naturel dans nos cultures, de dire t'es beau, t'es belle, t'es intelligent,
c'est ça.
Tu vas réussir, tu vas... Et en fait, c'est des prophéties autoréalisatrices. Et c'est fort quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui le fait.
Exactement.
Et je pense que ça doit être mille fois plus fort encore quand c'est ton parent, ta mère, ton père
oui.
qui te le dit tous les jours.
Exactement. Parce que même le fait de te dire, toi tu dis je ne vais pas y arriver, c'est un peu ce que j'essaye de transmettre à mes enfants. C'est pas non, je ne vais pas y arriver, je vais y arriver. Tu es intelligente, tu es fort, tu es belle. Mais parce que dans leur tête, la timidité, le fait de se sentir pas légitime par rapport à une position qu'ils peuvent avoir. Et je me dis que le fait de répéter à nos enfants qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, qu'ils sont intelligents et qu'ils méritent d'y arriver, et ben eux, dans leur positionnement, dans la vie de tous les jours, ben au lieu de garder la tête baissée, ben t'y vas le port altier et t'y vas la poitrine bombée, tu vois. Et ça fait toute la différence, je pense, dans la recherche, en tout cas, de l'estime de soi, d'avoir ces mots qui pèsent dans la balance et qui permettent à l'enfant de pouvoir évoluer positivement. Donc, Madame Guérin, Monsieur Lababi, franchement, merci beaucoup.
Allez, il en avait trois. Non, t'en avais trois. Il faut le troisième.
Le troisième, c'est le club de foot. Enfin, le foot pour le coup, parce que du coup, j'ai eu des éducateurs de qualité qui étaient des hommes accomplis pour le coup.
Ouais.
Alors, on en discutait avec Anne tout à l'heure, mais ça aussi, ça fait la différence. C'est que j'avais des hommes qui avaient un système de valeurs et ils n'hésitaient pas. Et je prends en l'occurrence le club du CFFP, qui est un club dans le 94.
Il existe encore. Allez inscrire vos gosses.
Et ben, franchement, c'était un truc de malade parce que justement, quand on parle de coéducation, ils voulaient absolument que les parents soient présents à l'Assemblée Générale, sinon on ne pouvait pas s'y inscrire. Donc du coup, il faisait un bilan de la saison, il remettait, même si mon père il comprenait rien, mais il remettait un livret pour montrer les résultats du club et tout, et ça permettait aux parents de savoir où en étaient leurs enfants, mais de leur permettre d'être pleinement, en tout cas au courant de ce qui se passait au club. Donc du coup, ces hommes-là, qui étaient pour la plupart des CRS, je m'en souviendrai toujours, pour le coup, ils avaient le sens de la discipline. Donc on venait pas à l'heure, tu vas faire des tours de terrain. Tu viens en retard ou bien tu fais des choses qu'on n'a pas demandé, c'est tu vas faire des tours, des tours de terrain. Et à partir de ce moment-là, ben, tu avais un système de valeurs, le sérieux, le respect vis-à-vis des autres, parce qu'ils axaient beaucoup sur le respect. Et à partir de ce moment-là, ben, écoute, ça m'a construit un tout petit peu. Donc, merci à eux.
Merci Fadaman pour ce témoignage.
J'ai une petite question. Est-ce qu'on n'est pas en pénurie de « je t'aime » et de « je m'aime »
On va faire une émission totale sur l'amour parce que franchement, je pense que c'est important et peut-être que cette année, justement, la dernière émission, elle devrait être focus sur l'amour. On répond à Barberiche, il nous reste 15 minutes d'antenne. J'ai encore 2-3 questions à vous poser, mais allons-y. Est-ce qu'on est en pénurie de je t'aime et je m'aime ? En deux mots.
Oui, oui.
Oui, oui.
Voilà.
Oui,
mais de je t'aime. Je t'aime amoureux, je t'aime fraternel, je t'aime amical, je t'aime parental, je t'aime frère et sœur.
Je t'aime être humain.
De la démonstration.
Je t'aime être humain, je t'aime ami dans l'associatif, je t'aime Booba
dans le média,
dans les médias.
Je t'aime quoi. Le vrai je t'aime.
C'est ça, genre peu importe si on est d'accord, on n'est pas d'accord, on fait les mêmes activités ou pas,
on est dans un combat et cet amour aussi des gens qui sont dans le même combat. Tout à l'heure, tu disais, des fois, on est dans des armées sans soldats. Un soldat, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'aimer son co-soldat, peu importe quoi.
Et même, j'ai envie de dire, pour pousser le bouchon plus loin et que les gens puissent débattre chez eux, je t'aime même si j'aime pas tes idées. Dans le sens où j'aime, non mais si, parce que moi j'aime pas tes idées, non mais moi j'aime pas tes idées, mais je te veux pas de mal en fait.
Oui,
ça veut dire
oui.
que et souvent les gens ils sont choqués quand je dis ça, mais c'est vrai, j'aime pas tes idées, j'aime pas ce que t'es, j'aime pas ce que tu représentes, et pour autant je te veux pas de mal et je te ferai jamais de mal. C'est toi et toi, si t'arrives à bouger ou si on arrive par le faire à te faire bouger par la preuve, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est toi et ton âme, mais moi je te veux pas de mal. Et je pense que si les gens arrivaient à se dire ça et à dire j'aime pas tes idées et du coup je viens revendiquer contre tes idées mais pas contre ta personne en fait, bah il y aurait moins de violence parce que du coup c'est des idées qui s'affrontent, qui se confrontent. Apprenez à débattre, à ne pas être d'accord, mettez-vous d'accord sur le fait que vous êtes pas d'accord, mais est-ce que pour autant on veut du mal à l'autre? Est-ce que pour autant on enlève la vie de l'autre parce qu'on l'aime pas, parce qu'on aime pas ce qu'il a posé comme acte? Et en fait c'est un vrai sujet.
J'ai envie de juste en placer une pour Raja, là, qui est partie dimanche.
Exactement, je pensais à elle aussi.
Des personnes de l'extrême droite, et elle leur a dit ce qu'elle pensait, sans violence, sans...
Exactement.
Juste, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, je trouve que c'est super grave, j'ai fait mon taf, je rentre chez moi.
Voilà. Et ça peut être virulent dans la façon de l'exprimer, parce que c'est des émotions, mais elle est un vrai modèle, Raja. Ouais. Parce que tu vois, le fait d'y aller, et en plus, je tiens à dire que je n'ai pas vu beaucoup de monde derrière elle.
Ouais.
C'est-à-dire que là où des fois tout le monde fait appel à elle pour, mais là elle était pas avec une foule de monde de ouf, mais elle a été, elle a porté son courage et elle leur a dit mais comment ça, c'était ça a été repris, c'est coupé, c'est hors contexte, etc. On la voit un peu en train de crier, mais finalement elle te dit juste comment ça, moi je suis pas d'accord, et comment ça toi t'as le droit d'exprimer tes propos haineux, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous avez vos idées. Vous avez vos idées. On n'est pas d'accord. C'est pas normal. C'est un fait. Mais comment ça, tu viens les exprimer? Comment ça, c'est un appel à la haine, en fait. Ouais. Merci, Inès. Prochaine émission, tu viens t'asseoir à côté de Juan. et à Adja, big up.
Pour toi.
Elle devait venir, en plus.
Ah,
ouais, ouais.
Je l'ai contactée, mais bon, maintenant, c'est devenu une personne publique.
Mais force à elle, regarde, elle est là, au final.
Grosse force à elle, bien sûr.
Franchement, très, très force.
Je l'ai au téléphone, je lui ai dit de faire quand même attention.
Parce que bien sûr.
Aller dans les manifs et être confronté à... Tu sais, il y a un coup qui peut partir, ça va vite. Hein. Et je lui dis, malheureusement, si ça t'arrive...
On parle encore d'une armée sans soldats. Parce que normalement...
Normalement,
et moi, la première, d'ailleurs, je m'en excuse, parce que moi, on ne me voit pas manifester, je manifeste différemment. Or, des fois, on sait qu'il faut manifester dehors, mais j'ai ce truc de me dire que quand je vois comment se déroulent les manifestations, quand je vois toute la violence, tu peux te retrouver enrôlé dans quelque chose qui n'est pas toi. Parce que ça va vite. Un coup porté à la personne qui est à côté de toi, etc. Ça va tellement vite que des fois, les gens, ils y vont avec l'envie d'être pacifique. Et on ne parle pas des forces de l'ordre en face, tu vois. Selon les manifestations qui aussi, des fois, nous poussent au débordement, il faut le dire. C'est encore un sujet.
Moi, je lui ai dit, si jamais il t'aurait mis un coup, il y a des autorités gringoises qui auraient débarqué. Mais bon, ça, c'est un autre débat, ça, c'est un autre débat, tu vois. Mais,
milice de blackout.
C'est ça, la milice, bien justicier, Batman.
Pas
d'appel à la violence.
Elle a eu un discours fort, sans que ça en vienne... En fait, elle a fait le travail. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être un fou de leur team qui aurait pu sortir de nulle part et... Faut qu'elle y aille plus toute seule et qu'elle soit accompagnée. Mais tu vois, juste la parole, pour moi, c'était l'arme qu'il fallait à ce moment-là. Mmh. Et c'était un symbole super fort.
Et je trouve qu'elle a eu des émotions maîtrisées.
Ouais.
Et ça, c'est très important. Ouais.
Et après, le fait d'être plusieurs, c'est des fois aussi de reposter. Ça veut dire qu'elle, elle y a été, elle a pris son courage, elle y a été. Grâce à Dieu, il lui est rien arrivé, mais du coup, de reposter, de publier, de partager pour que justement, en fait, quelque part derrière aussi, elle n'est pas toute seule. Maintenant, c'est compliqué le jeu des réseaux, donc il faut faire attention aussi parce que reposter, c'est multiplier les personnes qui le voient et on ne sait pas comment les gens ils peuvent interpréter les choses.
Elle a été repostée de partout, hein, tous les gros médias, tout le monde, tu vois.
Après cette petite aparté, vas-y, Bouba.
J'ai répondu à sa question de
je t'aime.
Je t'aime et
je m'aime.
Et je m'aime. Je suis persuadé qu'il y a de l'amour entre nous ici. Mais il y a un problème aussi.
Excusez-moi, c'est le thé.
Mais y a, moi, je pense qu'il y a, après, c'est, je pense que ce sera le sujet d'un autre débat, mais il y a un problème avec le « je m'aime trop » sur les réseaux. Ouais. Je m'aime trop en selfie, je m'aime trop, je suis narcissique, je m'aime jusqu'à vous.
Ouais, mais Bouba, ils sont « je m'aime trop » parce qu'on ne leur dit pas assez « je t'aime
ouais. ».
Je pense.
Ouais.
Donc tu penses que ce que tu ne trouves pas chez l'autre, tu vas vouloir te l'approuver à toi-même ?
Exactement.
Il y a un sujet. Je pense qu'on est dans une société de « tu m'as-tu vu ?»
Ouais, c'est ça.
Et je pense que tout à l'heure, on parlait de savoir-être et il y a des choses. Mais là aussi, il y a un débat. On est parti, on a ouvert cette émission sur un adage. Est-ce qu'on est mieux servi par soi-même en parentalité ? Est-ce que cet adage, pour vous, il résonne ? Qu'est-ce que ça vous... Voilà, je te dis ça. En parentalité, je suis mieux servie par moi-même. Vrai, faux ? Quelle est ta position par rapport à ça ?
Bah, je pense que plus on est investi dans l'éducation de ses enfants, plus ça paye. Après, des fois, il y a des endroits où ça pêche. Et là, par contre, il ne faut pas hésiter à aller chercher les compétences qu'on n'a pas ou l'aide dont on a besoin. Donc, on est... mieux servi par soi-même,
oui
et non.
Et non.
Et non hein. Il faut savoir aller chercher ce qui manque à la maison.
Ouais. Adam ?
Non, parce que je pense que ce qu'on a pu tous dire autour de la table par rapport à nos expériences et à notre vécu, je pense que c'est ce qui nous a construit en tant qu'individu. Donc je dirais que je vais d'abord trouver, entre guillemets, par rapport à mon système de valeurs, de quoi pouvoir éduquer mes enfants, mais... J'ai aussi besoin de ce que j'ai pu voir ou observer pour pouvoir mettre de l'eau dans mon coca et
non,
faire
pas
des
coca,
choses.
Désolé, hein.
Pardon, de l'eau dans mon bref,
dans mon moulin,
dans ton bissap,
dans mon bissap,
personne connaît.
Dans mon bissap. Et pour le coup, voilà, pour pouvoir nourrir en tout cas de meilleures aspirations pour mes enfants et faire les choses du mieux possible.
Bouba. Est-on mieux servi par soi-même en parentalité ?
L'école est malade, le monde est malade, je pense que...
Et les parents ?
Les parents ont des difficultés aujourd'hui, et moi je pense qu'on a besoin d'aide. Hein. Enfin, il faut qu'on s'entraide les uns et les autres. Mmh. Franchement, honnêtement, moi je pense qu'aujourd'hui, certes, hein, il faut une base à la maison, tu vois, mais on a besoin d'aide. Tu vois. On a toujours des... Oui, je sais qu'il n'est pas d'accord. Non, je sais qu'il n'est pas d'accord, mais au vu de... Au vu de ce qui se passe. Après, il faut de réelles bases à la maison. J'essaie de le mettre dans ma poche. Tu vois. Il faut de réelles bases à la maison. Tu vois. Ouais. Il faut c'est vraiment mettre des bases. C'est-à-dire l'amour au centre de tout et des bases, que ce soit des bases éducatives. Ouais. Ne serait-ce que la politesse, les règles de bienséance. On voit quand un enfant il est éduqué. Tu vois, il est bien éduqué, on le voit. Juste au bonjour. Il dit bonjour, ça va et toi ? Ça va, vous allez bien, et vous tu vois, rien que ça, moi quand je vois ma fille Kumba qui dit ça, je vois que ça...
Il faut voir le papa aussi.
Non, mais sa maman a fait bien le boulot aussi, tu vois. Et du coup, je pense qu'on a forcément besoin de personnes ressources à des moments donnés parce qu'on n'évolue pas dans un monde à huis clos. Quoi,
bien sûr.
Moi, je dirais... Parce que la phrase, c'est « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et en fait, je dirais oui... Parce que malheureusement, tu ne sais pas ce qui peut t'attendre dehors. Alors qu'à la maison, on va dire que tu sais plus ou moins ce que tu dispenses. Donc c'est pour ça que moi, je dirais oui. Parce qu'à l'extérieur, moi, je ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. C'est un peu au petit bonheur la chance, en réalité. Et en fait, l'enfant, il s'appuie. Sa ressource première, c'est ce que tu lui inculques toi, en vrai. Et après, il y a le discernement. Mais le discernement aussi. Mais le sens du discernement, il est quand même alimenté parce que tu auras transmis à ton enfant. Et après, il y a le sens du discernement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver, tu vas prendre ou tu ne vas pas prendre.
Mais alors, d'avoir confiance de faire en sorte que nous, adultes et parents, on puisse être en confiance de ce qui se passe dehors. C'est-à-dire que si tout le monde éduque, co-éduque, si tout le monde prend ses responsabilités d'adulte, ce serait plus facile d'accepter cette coéducation. Mais moi, d'être en confiance avec celui qui va coéduquer.
Moi, je ne réfute pas ou je n'omets pas le fait qu'il y ait une coéducation et que tu prennes de l'extérieur.
C'est ça.
Mais pour moi, l'éducation première, c'est celle de la maison. Et si elle est bien faite, si l'éducation de la maison, elle est bien faite...
En fait, ton enfant, il prend que les éléments...
Il va prendre à l'extérieur les éléments qui vont compléter ce que tu as eu à la maison. Parce que pour moi, souvent, il y a des parents qui disent « Ouais, j'éduque bien mon enfant. » Ouais, c'est ce que tu crois. Mais dans les faits, c'est peut-être pas ça. C'est comme les coups, moi je l'ai dit dans cette émission. Il y en a qui pensent que parce qu'ils mettent des coups à leurs enfants, ils éduquent bien leurs enfants. Non. Parce que dès lors que tu fais appel à la violence, même si c'est ton seul référentiel, pour moi, il y a un souci. Je ne jette pas la pierre à ceux qui le font, mais pour moi, il y a un souci.
Mais tu limites l'enfant.
Exactement.
Juste, c'est intéressant ce que tu dis sur la...
Quoi? Non, parce que t'as bégayé.
T'es un gamin, toi.
Ah ouais, vas-y, Inès. J'ai parlé bien pendant une heure et demie.
T'as vu, t'as bégayé une seconde.
Pas
non,
passer.
Non, mais je dis ça parce que...
Laisse-le, Inès, c'est petit.
J'attends la suite.
C'est un beau tour.
Non, c'est intéressant. Ouais,
exactement, c'est un beau tour.
C'est intéressant ce que tu dis... Parce que tu parles de la question de la confiance et tu dis je sais pas ce qu'il y a dehors, mais des fois on sait pas ce qu'il y a dedans et je pense que c'est peut-être un sujet dont il faudrait parler dans ce podcast. Ouh, c'est là-bas. La question des violences faites aux enfants, de la pédophilie. Ouais. Parce que des fois t'as l'impression que tu laisses rentrer la famille, les oncles, les cousins, etc. C'est safe. Et y a beaucoup, c'est un tabou
dans nos
partout
familles,
en France, mais aussi dans nos familles. Alors que c'est réel, les chiffres ils sont horrifiants. Et comment on s'éduque à ça? Comment on éduque nos enfants à ça? Comment on les protège de ça? D'ailleurs, c'est une mobilisation qui a couvert Adja aussi il y a quelques temps d'une maman qui a découvert que son enfant a été agressé à l'école, qui a parlé. Quand elle a parlé, d'autres parents se sont manifestés. On dit oui, c'est vrai. Une fois, elle est rentrée à la maison avec du sang, ma fille, du sang dans ses sous-vêtements. Et ça, c'est un fléau. Et je pense qu'il faut absolument qu'on en parle. Et c'est le rôle des parents aussi de protéger leurs enfants.
On l'avait abordé très succinctement dans un des épisodes. J'essaierai de mettre en lien pour que tu le retrouves.
Le consentement.
Dans le consentement. Et on avait abordé justement les violences intrafamiliales, notamment sur l'inceste, la place qu'elle prend et aussi la difficulté pour les parents de parler. Et tout ce que ça implique derrière quand tu parles, et que des fois, du coup, l'enquête, elle est tournée sur toi. Et ça violente les gens. Merci Inès pour ça. Juste avant de te passer la parole, Bouba, parce que vous aurez aussi le mot de la fin, pour que les pieds dans la tasse, ça se passe chez vous, que cette question, parce que là, on est resté sur quelque chose de très positif, de valorisant, on va quand même poser la question des pieds dans la tasse. C'est important aussi de bousculer, qu'on se bouscule nous-mêmes. Et ensuite, on rendra l'antenne. Bouba et ensuite déjà Anne. Oui, vas-y, fadament, Bouba,
non,
Anne.
Non.
Ah, tu veux...
Non, non.
Si, fadament, Bouba, Anne, vas-y.
Tu veux mon 45 et demi dans la tasse?
Ouais, vas-y. tu menaces?
Non,
on a dit c'était bien.
Ah, le pied dans la tasse.
Tu menaces de renverser ta tasse comme ça, normal.
Non, pas dans la tasse.
Dans la tasse, normale. Tu menaces.
Incroyable.
Tu te rends compte, fadament?
Incroyable. Je suis choqué, franchement.
Tu veux nous faire faire le ménage à 5 minutes de la fin de l'émission?
Non, j'ai une petite question, une petite interrogation pour tout le monde.
Ah, pose ton interrogation.
Non, surtout pas. Fadament, Bouba et Anne, comme ça, après on cut. Vas-y.
Non, moi, pour le coup, je vais juste dire que j'ai kiffé l'exercice parce que vous êtes des personnes plus qu'inspirantes de par ce que vous faites et de par ce que vous apportez. Et ça donne quand même, en tout cas à mon niveau, de l'espoir par rapport aux personnes ressources dont on parlait, parce que c'est très important aujourd'hui d'avoir des pistons de transmission, quel que soit le domaine, et qu'on puisse amener nos enfants justement à avoir ces relais qui peuvent permettre en tout cas de pouvoir communiquer. Parce que moi, je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est quand même la communication, une chose qui manque beaucoup aujourd'hui et qui justement met une ambiguïté là où il ne doit pas forcément y en avoir, parce qu'on a un rapport qui est biaisé en tout cas avec les jeunes générations. Donc le fait de voir des personnes qui savent s'exprimer, qui ont cette gymnastique de la parole assez facile, je pense que c'est très intéressant. Et même Inès, que je ne connaissais pas du tout pour le coup, franchement, j'ai trouvé que c'est une bonne et belle personne avec le cœur en tout cas.
Merci. Au moins quelqu'un autour de cette table qui s'est donné de l'amour.
Elle a bégayé, mais ça va quand même.
Non, mais vraiment, c'était un très bon moment. J'ai beaucoup apprécié le moment.
Franchement, merci. Merci. Mais je vous redonnerai quand même le mot de la fin pour clôturer l'émission. Merci. Booba. Parce qu'une fois qu'ils auront parlé, on aura vraiment besoin d'amour.
Avant de m'écouter dans ma tasse, je vais vite faire rebondir sur le dehors de Barbeux, tu vois. Selon moi, il y a le dehors et le dehors, tu vois. Il y a le dehors qu'on ne connaît pas et le dehors qui est proche de nous, c'est-à-dire les gens, personnes ressources, etc. Juste un exemple, j'étais avec un frère que nous connaissons tous ici, qui à un moment donné, je suis en voiture avec lui, on récupère ses filles, tu vois. Et à un moment donné, il parle du fait que la sanction qu'il a donnée à sa fille, qui à un moment donné est allée sur Snap sans son autorisation. Et du coup, je l'entends parler à sa fille, mais je sentais qu'il voulait que je m'implique dans la discussion, tu vois, pour avoir... Et à un moment donné, je dis rien, c'est parce que je me dis, bah, je suis poli et je ne veux pas rentrer dans... Tu vois. Et à un moment donné, il me dit, Bouba, qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi, je la sanctionne ? Et du coup, là, j'ai donné mon avis, tu vois. Du fait de... J'ai donné mon avis en questionnant aussi sa fille pour lui demander si elle a compris la sanction de son père et que, à un moment donné, voilà, il y a des mesures, enfin, il y a des limites à ne pas dépasser, si et ça, tu vois. Et donc, voilà, c'est un exemple. Mmh. Et je te laisse mettre les pieds dans la tasse tranquillement. Mmh.
Est-ce que la carte de la coéducation n'est pas un joker lorsqu'on est à l'ouest?
Moi, je vous avais prévenu. Moi, j'avais prévenu. Anne a renversé sa tasse. Nous allons devoir faire le ménage. Je vous invite, chers auditeurs, à répondre à cette question avec vos proches pour justement que les échanges soient authentiques. Parce que le but, c'est qu'on puisse partager un échange entre nous, mais c'est aussi que ça provoque et ça suscite des débats chez vous. Donc, on vous laisse avec cette vraie question de... Anne, tu peux répéter ?
Est-ce qu'on ne sort pas la carte de la coéducation ? Donc du coup, est-ce que la carte de la coéducation, ce n'est pas un joker lorsqu'on est à l'ouest ?
Ok.
Dans l'éducation qu'on donne.
Du coup, j'en profite pour vous remercier d'être venu partager ce moment avec nous. C'est important et c'est important aussi qu'on puisse faire passer le message autour de nous que ce soit, quelle que soit la place des gens, qu'ils soient jeunes, professionnels ou parents, il est bienvenu pour venir partager un temps d'échange avec nous. Plus on sera nombreux et plus on sortira aussi de notre entre-soi. Nous, on essaye de le faire. Après, on est obligé de faire avec ceux qui sont volontaires pour venir.
Et puis, ce sera rigoureux aussi.
Mais du coup, n'hésitez pas à faire passer l'information. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir. Merci Fadaman, Inès. Merci Bouba et Barberiche. Merci à Mon Paris FM. Et merci, je vous laisse dire au revoir et à bientôt. Ciao, personne ne doit rester à l'arrêt.